Chapitre 45, l'individualité. Le pouvoir de l'individualité, tout être humain, créé à l'image de Dieu, possède une puissance semblable à celle du Créateur, le pouvoir personnel de penser et d'agir. Les hommes qui développent ce pouvoir sont des hommes prêts à assumer des responsabilités, des chefs de file, capables d'influencer les autres. Une personnalité distincte, l'Évangile s'intéresse aux individus. Chaque être humain a une âme à sauver. Chacun a une personnalité séparée, distincte de tous les autres. Chacun doit être convaincu pour lui-même et converti individuellement. Il doit accepter la vérité, se repentir, croire et obéir à titre personnel. Il doit exercer personnellement sa volonté. Nul ne peut le faire par procuration. Nul ne saurait noyer sa personnalité dans celle d'un autre. Chacun doit capituler devant Dieu par une décision personnelle et par le mystère de la piété. Unité dans la diversité, il entre dans le dessein de Dieu qu'il y ait unité dans la diversité. Aucun homme ne saurait être le critère des autres hommes. Nos diverses responsabilités sont proportionnées à nos différentes capacités. D'après les instructions précises que j'ai reçues, Dieu donne aux humains divers degrés d'aptitude, puis il les place là où ils peuvent accomplir l'œuvre dont ils sont capables. Chaque ouvrier doit montrer à l'égard de ses collaborateurs le respect qu'il souhaiterait qu'on lui témoigne. La richesse de la diversité, qu'avons-nous besoin d'un Matthieu, d'un Marc, d'un Luc, d'un Jean et de tous les autres écrivains sacrés qui ont apporté leur témoignage concernant la vie du Sauveur pendant son ministère terrestre? Un seul de ses disciples n'aurait-il pas pu écrire un compte-rendu complet grâce auquel nous aurions un récit suivi de la vie et de l'œuvre du Christ? Les évangiles diffèrent les uns des autres. Cependant, leurs récits se fondent et forment tout harmonieux. Tel auteur introduit des éléments dont un autre ne parle pas. Si ces éléments sont importants, pourquoi tous les autres auteurs ne les mentionnent-ils pas? Parce que les esprits des hommes diffèrent les uns des autres et qu'ils ne comprennent pas les choses de la même manière. Certaines vérités impressionnent beaucoup plus les esprits d'une catégorie de personnes que ceux des autres. Certains points apparaissent beaucoup plus importants aux yeux de certains qu'aux yeux des autres. Cela est vrai aussi de ceux qui prennent la parole en public. Certains d'entre eux insistent beaucoup sur certains aspects que d'autres mentionneront en passant, voire pas du tout. C'est pourquoi la vérité est mieux présentée par plusieurs personnes que par une seule. Sauvegarder la personnalité de chacun, le Seigneur ne désire pas que notre personnalité soit étouffée. Il n'est pas conforme à ses plans que deux personnes aient exactement les mêmes goûts et les mêmes dispositions. Tous ont des particularités qui leur sont propres, et celles-ci ne doivent pas être éliminées, mais elles doivent être éduquées, façonnées, modelé à la ressemblance du Christ. Le Seigneur se sert des dons et des capacités naturelles et les utilise à des fins profitables. Grâce au développement des facultés que Dieu donne, les talents et les capacités s'améliorent si l'agent humain reconnaît que celles-ci sont un don qui vient de lui et qu'elles doivent être employées non à des fins égoïstes, mais pour sa gloire et pour le bien de nos semblables. La personnalité de l'enfant. Un enfant peut être dressé comme un animal au point de n'avoir aucune volonté propre parce que sa personnalité a été étouffée par celle de son maître. Dans toute la mesure du possible, chaque enfant devrait apprendre à avoir confiance en lui-même. En exerçant ses diverses facultés, il découvrira ses côtés forts et ses côtés faibles. Un maître avisé veillera à développer les côtés faibles de l'enfant, afin que celui-ci acquiert un caractère harmonieux et bien équilibré. Le mariage ne doit pas détruire la personnalité des époux, ni le mari, ni la femme, ne doit chercher à exercer sur son conjoint une autorité arbitraire. N'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Vous ne sauriez conserver ainsi un amour réciproque. Soyez bon, patient, indulgent, aimable et courtois. Avec l'aide de Dieu, vous pourrez vous rendre heureux l'un l'autre, selon la promesse que vous vous êtes faite le jour de votre mariage. Message adressé à de jeunes mariés, dans votre union pour la vie, vos affections doivent être tributaires de votre bonheur mutuel. Il faut que chacun veille à celui de l'autre. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. Mais bien que vous deviez vous confondre au point de ne former qu'une même personne, il ne faut pas que l'un ou l'autre perde son individualité. C'est Dieu qui possède votre individualité. C'est à lui que vous devez demander, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Comment puis-je le mieux atteindre le but de mon existence? Vous ne vous appartenez point à vous-même, dit l'apôtre. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Votre amour envers un être humain doit passer après votre amour pour Dieu. Que la richesse de cet amour soit dirigée vers celui qui a donné sa vie pour vous. L'âme qui vit pour Dieu fait monter vers lui ses affections les meilleures et les plus élevées. La plus grande partie de votre amour va-t-elle à celui qui est mort pour vous? Si oui, votre amour l'un pour l'autre sera conforme à l'ordre du ciel. Nous avons une personnalité qui nous est propre. Aussi la personnalité de la femme ne doit jamais être étouffée par celle de son mari. Bienfait de la consécration, la personnalité d'une vie consacrée au service de Dieu sera développée et embellie. Personne ne doit noyer sa personnalité dans celle d'un autre, mais, en tant qu'individu, nous devons tous être greffés sur le cep initial, et il doit y avoir unité dans la diversité. Le grand maître d'œuvre n'a pas fait deux feuilles d'arbre qui soient identiques. De même, son pouvoir créateur n'a pas donné à tous les esprits la même ressemblance. Ils sont créés pour vivre au siècle des siècles, et il doit y avoir totale unité entre eux, l'un se confondant avec l'autre. Cependant, il n'en est pas deux qui soient fondus dans le même moule. Chacun son rôle, les éléments du monde de la nature doivent être pris en considération, et les enseignements qui s'en dégagent être appliqués à la vie, et à la croissance spirituelle. Ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui a donné à chacun sa tâche. Il s'agit d'une œuvre individuelle qui consiste dans la formation d'un caractère à la ressemblance divine. Le lys ne saurait s'efforcer d'être comme la rose. Il y a différentes formes de fleurs et de fruits, mais toutes ces particularités viennent de Dieu. Ainsi, il entre dans le dessein du Très-Haut que les meilleurs des humains n'aient pas tous le même caractère. La nécessité du respect mutuel, chacun d'entre nous a une œuvre à faire. Bien que nous appartenions à différentes nationalités, nous devons être un en Christ. Si nous permettons à nos particularités de caractère de nous diviser ici-bas, comment pouvons-nous espérer vivre ensemble au ciel? Nous devons cultiver l'amour et le respect mutuel. L'unité pour laquelle le Christ a prié doit régner parmi nous. Nous avons été rachetés à un grand prix, et nous devons glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits. Effort voué à l'échec, celui qui cherche à copier le caractère de quelque autre homme que ce soit va au-devant d'un échec. Chacun doit regarder à Dieu pour lui-même, en développant fidèlement les talents qu'il a reçus de lui. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est en vous, mon frère, en vous, non pas en quelqu'un d'autre à votre place. Vous devez faire une expérience personnelle. Alors vous vous réjouirez en vous-même, non en quelqu'un d'autre. Chaque esprit possède une particularité qui lui est propre. Je suis attristé de voir combien des hommes que le Seigneur a utilisés et qu'il utilisera encore sont peu appréciés. Que Dieu nous garde de faire en sorte que l'esprit de chaque homme suive la voie empruntée par l'esprit d'un autre. Certes, l'esprit d'une personne peut être vanté par certains comme étant d'une qualité supérieure. Mais tout esprit a ses faiblesses et sa force particulière, et l'esprit de l'un compensera les déficiences d'un autre. Mais si tous travaillent en conjuguant leurs efforts et s'ils sont encouragés à regarder non pas aux humains pour connaître leurs devoirs mais à Dieu, ils progresseront sous la conduite du Saint-Esprit, et ils agiront en union avec leurs frères. Tel comblera les lacunes de tel autre. Travers à éviter, le Seigneur a confié à chaque homme une responsabilité individuelle. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'homme n'a pas à travailler au salut d'un autre homme. Il ne doit pas devenir la copie de l'esprit de quiconque. Son devoir consiste à agir selon sa capacité et d'après les dons qu'il a reçus de Dieu. Aucun homme, quelle que soit son expérience et sa position, ne doit s'imaginer qu'il accomplit une œuvre magnifique lorsqu'il forme et façonne l'esprit d'un autre à l'image de son propre esprit, et quand il lui dicte les sentiments qu'il doit exprimer. C'est pourtant ce qu'on a fait à maintes reprises au détriment des êtres humains. Ne pas être l'ombre des autres, oh! Combien les ouvriers ont besoin de l'esprit de Jésus pour les changer et les modeler comme l'argile est façonnée entre les mains du potier. Quand ils seront animés de cet esprit, il n'y aura plus de discorde parmi eux, ils ne seront plus intransigeants au point d'exiger pour vouloir que tout soit fait à leur goût, selon leurs idées. Il n'y aura plus de désaccord entre eux et leurs collaborateurs qui ne partagent pas leurs opinions. Le Seigneur ne veut pas que quelconque de ses enfants soit l'ombre des autres, mais il voudrait que chacun d'eux reste simplement lui-même, raffiné, sanctifié, ennobli par l'imitation de la vie, et du caractère du souverain modèle. L'état d'esprit étroit, refermé sur lui-même, borné, qui mesure toute chose d'après son étalon, a été une malédiction pour la cause de Dieu et le restera aussi longtemps qu'il survivra. Nul ne doit se laisser submerger par quelqu'un d'autre, Dieu permet à tout être humain d'exercer son individualité. Il ne désire pas que quiconque laisse submerger son esprit par l'esprit d'un de ses semblables parmi les mortels. Ceux qui souhaitent que leur esprit et leur caractère soient transformés ne doivent pas regarder aux humains, mais à l'exemple divin. Ayez en vous la pensée même qui fut en Christ Jésus. Par la conversion et la transformation, les hommes doivent recevoir l'esprit du Christ. Chacun doit se présenter devant Dieu avec sa foi et son expérience individuelle, sachant personnellement que le Christ, l'espérance de la gloire, est formé en lui. Si nous voulions imiter l'exemple d'un homme, fût-ce une personne que nous considérerions comme ayant un caractère presque parfait, cela équivaudrait à placer notre confiance dans un être humain faillible, quelqu'un qui serait incapable de communiquer la moindre parcelle de perfection. Esprit énergique, il est bon que frères et sœurs tirent bas ainsi que frères et sœurs tirent bas, aient des convictions. Chacun doit garder son individualité. Chacun doit préserver une individualité qui ne risque pas d'être étouffée par celle d'une autre personne. Nul être humain ne doit être l'ombre d'un autre être humain. Les serviteurs de Dieu doivent travailler ensemble dans une unité qui permette d'allier les mentalités. À chacun sa mesure, aucun homme ne peut grandir à la pleine stature humaine pour un autre homme. Chacun doit atteindre pour lui-même la stature qui lui est propre. Chacun doit grandir sous la direction de Dieu. Une forme de solitude, d'un point de vue humain, la vie est pour chacun un chemin vierge, où nous marchons seuls, en ce qui concerne nos expériences les plus profondes. Aucun être humain ne peut pleinement partager notre vie intérieure. Alors que l'enfant s'engage dans ce voyage, au cours duquel il devra, tôt ou tard, choisir sa propre route, et décider de son éternité, il nous faut faire tous nos efforts pour l'aider à mettre sa confiance dans le vrai guide. Spécificité du caractère, le caractère est quelque chose de strictement personnel. Chacun de nous a une œuvre à accomplir pour le présent et pour l'éternité. Dieu est l'indifférence concernant la formation du caractère. Droit de l'homme, l'une des nobles applications de ces principes, ce relatif à la conscience de notre responsabilité individuelle, consiste à reconnaître les droits de l'homme envers lui-même, concernant le contrôle de son propre esprit, la gestion de ses talents, le droit de recevoir et de partager le fruit de son propre labeur. Nos institutions seront fortes et dynamiques uniquement si, dans toutes leurs relations humaines, elles respecteront ces principes et où elles tiendront compte des instructions de la parole de Dieu. La communion avec Jésus-Christ, une nécessité vitale, chaque âme a son individualité. Chaque âme doit vivre heure après heure en communion avec le Christ, car il déclare, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ces principes doivent être nos principes, car ils constituent la vérité éternelle, proclamée dans un esprit de justice, de bonté, de miséricorde et d'amour. Préserver l'individualité de l'expérience chrétienne, enseigner à chacun à se reposer de tout son poids sur le bras de la puissance infinie. Il y a, dans l'expérience chrétienne, une individualité à préserver chez chaque être humain, et nul ne saurait esquiver ses responsabilités. Chacun a son combat à mener, doit faire sa propre expérience chrétienne, indépendamment, jusqu'à un certain point, de toute autre personne. Et Dieu a pour chacun des leçons à enseigner, leçons que nul autre ne peut apprendre à sa place.